Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Cocon. Le Cocon est un podcast dans lequel j'accueille un coach inspirant pour explorer ensemble un sujet de développement personnel par le prisme de son propre parcours. Le but est de vous insuffler des pistes de réflexion et des clés pour mieux se connaître et ainsi mieux appréhender notre monde. Nous retrouvons dans cet épisode Dominique Janteur. Son approche originale utilise la créativité pour révéler nos talents innés, ces zones d'excellence naturelle que nous avons tous. Il n'est ni trop tôt, ni trop tard pour les identifier. C'est en ce sens qu'elle organise des ateliers dédiés aux adultes et d'autres aux enfants, les Talents Lab Kids. Ces derniers ont pour objectif de leur faire prendre conscience de leurs super-pouvoirs dès le plus jeune âge. Comment définir ces talents? Et comment impacte-t-il notre vie une fois adulte? Je vous laisse découvrir les réponses qu'elle apporte à ces questions. Si l'épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note sur iTunes ou Apple Podcasts. C'est ce qui nous permet de rendre le podcast plus visible et ainsi d'en faire bénéficier au plus grand nombre. Bonjour Dominique, je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode qui a priori s'adresse plutôt aux pères et aux mères, mais pas que, parce qu'on va parler de l'enfance, mais finalement, est-ce qu'en étant adulte, on n'a pas tous gardé une âme d'enfant? Donc au travers du sujet « Révéler ses talents dès l'enfance » ou « de l'enfance ». Donc l'idée, c'est d'aborder l'approche par les talents, et ce le plus tôt possible, parce que je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur, et on discutera plus longuement par rapport à ton parcours. Et ça fait aussi écho finalement à toi, ton propre parcours de vie, comment tu as trouvé tes talents, ta personnalité pour te singulariser et en faire des choix de carrière. Est-ce que tu voudrais commencer, avant qu'on aborde le vif du sujet, par te présenter?
Avec plaisir, Lydia. Alors donc, moi, je suis coach depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, mais avant, j'ai eu un parcours en entreprise. Je voulais être prof de maths parce que j'adore la pédagogie. Puis après, j'ai été à S-Mode parce que j'adore la mode. Donc, autant dire que déjà, je me suis un peu cherchée. Après, je suis partie vivre aux États-Unis où j'ai fait du commercial et j'ai plutôt fait ma carrière de retour en France dans des PME, où la partie esthétique comptait, marque de bijoux, marque de mode pour enfants, marque de vaisselle, Guy de Graines pour ne pas le citer. J'ai redressé une affaire, j'ai pensé reprendre une affaire et en fait, j'ai trouvé ma voie un peu sur le tard dans le coaching qui m'a permis d'allier mon goût pour l'humain, de la créativité et finalement de créer mon entreprise où je suis vraiment libre d'impulser et d'orienter comme je le souhaite. Et il y a 5 ans, alors je travaille pour pas mal de groupes de luxe, et il y a 5 ans, j'ai créé un accompagnement en petits groupes, puisqu'on est 6 à 8 participants, inter-entreprises, où on se voit 6-7 ateliers par an, et l'idée c'est de se reconnecter à ses talents pour trouver sa voie, puisque moi ça m'a pris du temps. Aujourd'hui je suis complètement dans ma voie, et ma vocation c'est de permettre aux gens d'y être. Et donc, si c'est 50 ans, c'est bien. Si c'est 40 ans, c'est bien. Et si c'est encore plus jeune, c'est mieux.
Super. C'est ce qu'on va voir ensemble pendant toute cette discussion. Je pense qu'on pourrait commencer par discuter de, finalement, qu'est-ce qu'on appelle talent, pour être sûr qu'on parle tous de la même chose. Parce que c'est vrai que parfois, on le compare aux aptitudes, aux compétences. Et je trouve que c'est un petit peu différent. Est-ce que toi, tu pourrais nous expliquer comment tu distingues les deux?
Merci beaucoup Lydia, parce que effectivement derrière ce mot talent qui est très à la mode, il y a beaucoup de choses et donc on n'est pas tous d'accord. Donc déjà talent, moi je le distingue de compétence. Compétence, c'est un savoir-faire. Talent, c'est une aptitude dans la vie, une affinité naturelle pour faire des choses. Donc c'est un type d'énergie, un type de facilité. On a tous des talents, donc quelqu'un qui n'aurait pas de talent, ça n'existe pas. Et ce qui fait notre différence, c'est le maillage de nos talents. Je donne un exemple, si à la fois tu es quelqu'un qui est très tourné pour écouter les autres, mais à la fois qui est très gestionnaire dans l'âme et à la fois qui est un peu, qui a besoin de calme et capable de s'évader, ce maillage est très différent de quelqu'un qui aimera le challenge, en même temps d'être très tourné vers écouter les autres et en même temps d'aimer aller vers les gens assez démunis. Ce maillage sera différent et ça fera un autre profil complètement différent. Donc, il y a les talents et l'association de talents qu'on fait.
D'accord, donc en fait, c'est hyper intéressant que tu dises que finalement, on a tous nos propres talents. Et est-ce que finalement, il y a des talents dans tout ? Parce que je trouve qu'il y a quand même des choses qui sont plus ou moins valorisées dans la société. Tu vois, en ce moment, on parle beaucoup du code. Avant, c'était peut-être plus les maths. Et justement, je regardais comment ça avait évolué. J'avais vu une étude sur ça où finalement, avant, un talent... Et le talent le plus important et le plus valorisé, c'était de savoir cultiver un champ à l'époque où l'agriculture représentait encore la part majoritaire de l'économie en France. Est-ce que justement, tu trouves qu'il y a des talents dans tout ?
Alors, c'est très intéressant de dire ça parce qu'il y a des modes de talents en fonction de, effectivement, à l'époque de l'agriculture, c'était un certain nombre de talents. Et demain, on voit ce qui va se dérouler, ça sera le virtuel, ce qui est encore un autre talent. Et c'est vrai qu'il y a des talents qui sont plus aidants à certains moments de sa vie. On peut être un peu à contre, pas dans la bonne époque, entre guillemets. C'est vrai que tous les talents ne sont pas reconnus pareil selon l'époque. Alors, je prends un exemple, et c'est aussi pour ça que les enfants m'ont extrêmement intéressée. Mmh. Il y a de là 20 ans, il fallait être plutôt bon élève, c'était les grandes écoles qui comptaient, et donc les enfants qui étaient des troublions dans l'âme, peut-être des entrepreneurs nés ou des one-man show nés, n'avaient pas la cote tellement à l'école, et pour eux c'était un peu plus compliqué d'être reconnus. Et certains qui étaient résilients ont pu faire complètement leur chemin, mais d'autres ont peut-être été un peu cassés par leur enfance. Et aujourd'hui, au contraire, il faut avoir des idées, il y a des nouvelles besoins et modes qui se mettent en place, et certains talents qui étaient décriés deviennent très à la mode. Donc, ce qui compte, c'est bien sûr utiliser tous ces talents et puis les adapter à son époque.
Et justement, ces similitudes, est-ce qu'elles sont uniquement liées au fait qu'il y a une époque et du coup une influence de la société, ou est-ce qu'elles sont aussi liées au fait que souvent on parle de talents innés ? Donc, il y a des similitudes qui sont liées aussi à cet aspect-là.
Alors, je ne sais pas, très sincèrement, si les talents innés changent devant l'époque. Je dirais plutôt non. Mais certains, tous les talents innés sont des talents, mais certains sont plus encouragés ou découragés selon l'époque. Et si je prends une femme très entreprenante, il y a 50 ans, mis à part si tu t'appelles Coco Chanel ou ces femmes qui ont changé le monde, mais si tu avais ça dans ton ADN, mais tu étais dans une famille classique, eh bien pour émerger, c'était compliqué. Aujourd'hui, une femme entreprenante, elle peut plus faire son chemin. Donc c'est vrai qu'il y a des talents qui, selon des talents innés, qui sont des talents et qui, selon l'époque, vont avoir plus de mal à émerger.
Alors là, c'est vrai que c'est des cas assez particuliers qui sont liés aux époques. Moi, je pensais aussi au langage, parce que finalement, c'est, je pense, l'exemple qui vient. Le premier, quand on parle de talent inné, parce qu'on n'a pas défini ce qu'on entendait par talent inné, mais peut-être tu pourrais le définir et puis je continuerai sur mon point sur le langage.
Oui, alors en fait, les talents innés, moi c'est une approche qui s'appelle l'approche comportementale et cognitive, qui est issue des neurosciences, qui a été mise au point par un professeur, chercheur, qui s'appelle le docteur Fradin. Il part vraiment de l'hypothèse que très tôt dans l'enfance, entre 0 et 3 mois, comment on va vivre d'attendre ou d'avoir vite son biberon ? Est-ce qu'on va attendre très longtemps ? Est-ce que le biberon va venir très vite ? On va passer par différentes stratégies de survie, puisque le bébé est en stratégie de survie, et on va mémoriser les stratégies qui nous ont permis de survivre et d'avoir son biberon. Et il a fait une palette de 8 familles de talents. Et ce qu'il explique, son hypothèse, c'est que ces talents, le bébé en sélectionne en moyenne 2-3 familles qui vont s'implémenter dans son cerveau émotionnel, qui est le cerveau limbique, et que ça sera le siège de ses motivations inconditionnelles et pérennes. Et ces motivations, c'est ce qu'on aime faire pour le plaisir de faire, c'est ces facilités naturelles dans la vie, et c'est ce qu'il appelle, d'une certaine manière, talent inné.
Ok.
Bah, super. Sauf que de temps en temps, on ne sait pas qu'on les a. C'est des talents innés oubliés.
Oui.
Mais ce qu'il explique, c'est que même si c'était oublié, c'est irréversible, c'est imprimé dans ton limbique, et si on te les réveille même à 40 ans, la facilité revient. Après, il faut acquérir la dextérité, mais la facilité, l'aptitude est là.
Mais justement, c'est ce dont on parlera vers la fin de l'épisode, comment on fait quand on est adulte et qu'on n'a pas forcément jusqu'à présent trouvé ses talents. Et donc, je voulais te donner l'exemple du langage parce que je trouve que c'est assez intéressant de voir. On parle beaucoup de l'enseignement précoce des langues étrangères et du fait que jusqu'à un certain âge, on puisse apprendre une langue très facilement, qu'on ait aussi l'oreille qui soit beaucoup plus développée. Et je sais qu'il y a eu beaucoup d'études sur ça. Et on parle justement du fait que jusqu'à 8 ans, la capacité à avoir une prononciation parfaite des langues soit préservée et qu'après, il y ait justement un changement qui se fasse à cet âge-là. Et je sais que toi, tu fais des ateliers spécifiques pour les enfants, justement autour de cet âge de 8 ans. Est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi ce seuil ?
Alors, ce seuil, il a été un peu choisi au début intuitivement. Parce que en sixième, l'enfant va avoir plusieurs cours, plusieurs professeurs, ça devient sérieux, il y a des enjeux. Et donc, je voulais passer avant cet âge-là. Et j'avais choisi la CM1, CM2, donc la 8e et 7e. Entre-temps, on se fait, pour cet développement personnel pour enfants, on se fait superviser par un psychanalyste, le docteur Yves Fergan, que j'ai été écouter sur une conférence très intéressante sur le fameux âge de raison. Mmh. Alors, c'est quoi cet âge de raison qui est à 7 ans ? C'est que vers cet âge-là, c'est pas un an près, il y a une bascule qui se fait et l'enfant avant est assez spontané et il donne à voir ses talents, il n'a pas trop d'interdits et après il va se conformer à ce que la société attend de lui, à ce que les parents attendent de lui, à sa place dans la fratrie et là il peut commencer à mettre sous le boisseau certains talents innés. Mmh. Et donc l'idée c'était qu'on arrive vraiment autour de cet âge-là pour pouvoir profiter de cette spontanéité et vraiment étiqueter talent, des choses qui peuvent être un peu dérangeantes, mais qui restent un talent. Donc un enfant qui parle beaucoup, qui prend la parole à l'école, qui bouge tout le temps parce qu'il a ce niveau d'énergie, ça peut être fatigant, mais c'est très souvent des enfants très créatifs, très bout en train, et c'est un talent. Et donc l'idée, c'est qu'on puisse étiqueter vraiment talent, toutes les énergies, même celles qui sont un petit peu moins faciles à gérer en groupe.
C'est intéressant que tu parles d'énergie parce que justement sur le site qui présente Talents Lab et Talents Lab Kids, vous employez l'expression alchimie des talents. Est-ce que tu pourrais me dire pourquoi ?
Alors pourquoi alchimie des talents ? Parce que je crois que notre singularité, elle est aussi sur comment on associe tous ces talents ensemble. Et comment ce qui va faire qu'on est différent de quelqu'un d'autre qui a le même talent, c'est qu'il ne fera pas la même alchimie. Donc, c'est vraiment un creuset de talents et comment on les associe et comment on les priorise qui va faire notre singularité et notre unicité même.
D'ailleurs, c'est marrant parce que quand je cherchais un peu les définitions de l'alchimie, bien sûr, il y avait cette notion de mélange, d'alliage, puisqu'à la base, c'est l'alliage des métaux. Et j'ai aussi trouvé une définition que je trouvais super jolie, qui était la transformation de la réalité banale en une fiction poétique.
Eh bien voilà, c'est super. Je vais me permettre, Lydia, de te reprendre cette citation.
Avec grand plaisir. Et donc, du coup, par rapport à ce fameux alliage qui permet d'avoir sa propre personnalité et du terme initial du sujet qui était autour de la révélation, donc révéler, je me suis posé la question, finalement, si révéler pour toi, c'était plus découvrir dans le sens où on va détecter quelque chose qui est en nous, est-ce que ça va être plus développer dans le sens où finalement, c'est un potentiel, mais si on ne fait rien, il ne se passe rien. Ou est-ce que c'est dans le sens cultiver ? Alors, la distinction que je fais entre développer et cultiver, c'est que cultiver, ça fait référence, par exemple, cultiver son jardin, c'est quelque chose qu'on a, mais qui n'est pas à son maximum. Et justement, si on le travaille, on va être sur une dimension qui est encore plus puissante.
Eh bien, je te dirais que c'est tout. Il y a des talents qu'on a, mais on ne pense pas que c'est des talents. Quelqu'un qui a une qualité d'écoute assez incroyable, à la limite, il va penser que, écoute, c'est pas un talent. Eh bien, si, c'est un talent en management, c'est un talent dans la relation. Et donc là, le talent est là, mais il va falloir le cultiver et vraiment que la personne se rende compte que c'est quelque chose qui est rare. Mmh. Et puis, il y a des talents, on ne sait pas qu'on les a. Donc, il faut complètement les révéler parce qu'on pense qu'on ne les a pas. J'ai même vu des gens qui ont des vraies qualités relationnelles, mais ils ont eu des expériences dans la vie de rejet qui fait qu'ils te disent au début du coaching, non, mais moi, j'aime pas le groupe, non, mais finalement, mis à part une ou deux amies, j'aime pas trop le lien. Et en détricotant, tu vois qu'ils aimeraient beaucoup le lien, mais ils ont eu comme un moment difficile à vivre qui fait qu'ils ont mis le boisseau dessus par peur, mais que si on travaille la peur, le talent est là. Et donc là, ça va être révélé. Donc il y a tous les cas de figure, parce que de temps en temps, on ne les connaît pas. De temps en temps, on les connaît, mais on ne pense pas que c'est des talents. Et de temps en temps, on les a, on les connaît, mais on ne les développe pas à son maximum.
Ok, d'accord. Bah, c'est super intéressant du coup que ça dépend des... Finalement, ça dépend un peu du parcours de vie de chacun, hein, qui fait que...
Ouais.
Dans certains cas, on le sait, dans l'autre, on ne le sait pas, etc. etc. Et je ne sais pas si tu connais Benjamin Bloom. J'avais fait des recherches sur les conditions d'apprentissage. C'est un psychologue américain qui a défini 4 conditions pour avoir finalement des talents qu'on exploite tout au cours de sa vie. Il parle de l'expérience précoce, de l'accompagnement de qualité dans un environnement propice, de l'entraînement avec un but précis, qui n'est pas du coup du divertissement, et de la motivation intrinsèque. Mmh. Et je trouve que justement la partie motivation intrinsèque est finalement, je dirais, la plus intéressante, parce que c'est celle qui fait qu'on a une unicité dans notre personnalité. Mais ce qui m'a un petit peu, pas chagrinée, mais c'est que finalement, dans ces conditions-là, il y a quand même l'environnement. Et du coup, ça veut dire qu'il y a un impact très fort de notre éducation, une sorte de pression. Et du coup, je voulais te demander, quelle est la limite à ne pas franchir en tant que parent ou éducateur, on va dire, d'enfant, pour pas créer un environnement trop pressurisant avec des injonctions implicites ou explicites qui aurait un impact du coup sur les enfants.
Alors écoute, quand j'ai des parents qui viennent d'avoir un bébé ou qui attendent un bébé, qui sont donc des managers, hein, et à qui je présente cette notion de talent inné qui se joue donc très tôt dans les quelques mois de l'enfance, ils sont là à me dire « Mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire ?» Et donc, d'abord, on ne peut rien faire, parce qu'on ne peut pas contrôler le ressenti émotionnel du bébé qui peut peut-être ne pas avoir attendu le biberon, mais il croit qu'il a attendu. Donc ça, on ne peut pas le contrôler. Par contre, si on a l'explication de toutes ces familles de talents, on va comprendre qu'on a plus d'affinités pour certains que d'autres, parce que bah, ce sont les nôtres ou que c'est plus proche de nous. Et le travail de parent, c'est d'accepter tous les talents, même ceux qui ne vous paraissent pas être des talents. Mmh. Si tu prends une famille où il faut toujours être dans le challenge, ben un enfant qui sera très doux, ça, on pourra décider qu'il est un peu mou et un peu trouillard, entre guillemets, alors que cet enfant, il est juste doux avec les qualités qui vont avec. Et donc, tout le travail que les parents ont à faire, c'est vraiment à être... conscient, ouvert aux différences de leurs enfants. Et c'est pour ça que pour l'instant, on est sur Talent Slap Kid, mais un jour, il y aura probablement Talent Slap Parent, parce que tous les parents veulent faire le mieux, mais on pêche par méconnaissance. Et par méconnaissance, on ne se rend pas compte que peut-être qu'un enfant qui est très placide, c'est un certain talent d'observation, c'est d'autres talents qu'un autre qui sera très actif.
Oui.
Et que si on est dans une famille qui vous ressemble, ben on est encouragé. Si on est un peu dissonant dans ses talents, au contraire, c'est pas par hasard. On est là pour ouvrir le champ de conscience et il faut être soutenu, qu'il y ait une sorte d'étayage des parents qui, même s'ils comprennent pas ce talent, l'étiquette bien talent. Et ça, c'est juste de la connaissance, parce que tous les parents que je connais veulent faire le mieux du monde pour leurs enfants.
Oui, oui, et souvent c'est ça en fait, on projette nos propres rêves non réalisés ou désirs cachés dans l'éducation de nos enfants. Et du coup, est-ce que peut-être pour que ça parle à ceux qui nous écoutent, tu pourrais te donner les 8 catégories de talents dont tu parlais ?
Alors, le premier talent, donc, c'est un talent, on a appelé cette famille philosophe, d'aptitude à être très branché sur les 5 sens, à regarder le monde autour, à être un peu dans la contemplation, à aimer l'authenticité. Okay. Le second, qu'on a appelé le conceptuel, le novateur. Au contraire, c'est un enfant qui va être dans la réflexion, qui va aimer vraiment se poser beaucoup de questions, qui va être extrêmement responsable, qui va aimer un peu les grandes causes sociétales et qui va aimer la gamberge. Le troisième, c'est au contraire l'enfant qui a bougé, gigoté dans tous les sens et le biberon est venu vite. Et donc, ça va être un enfant qui va aimer bouger, rigoler, faire des bêtises, être un peu un troublillon. Et au contraire, le mouvement, la mobilité, ça fait partie de ses talents, donc ce qui est éphémère, ce qui est un peu dans la rigolade et dans le moment présent. Le quatrième, au contraire, on l'a appelé le gestionnaire. Et donc, c'est un enfant qui sera très organisé, qui aimera prévoir, qui va bien ranger sa chambre, qui va aimer anticiper, qui va aimer ranger, classer, faire des catégories. Le cinquième, c'est l'enfant qui a commencé à hurler, mais le biberon est venu vite. Et donc, lui, il va aimer, on appelle ça le stratège, il va aimer les grands projets, il ne sera pas dans l'exécution, il va plutôt être sur les grandes lignes directrices, et il va aimer s'entourer de gens, il va savoir trouver les bonnes personnes, à même au bon endroit, donc c'est un peu un manager né. Le cinquième, lui, il a beaucoup attendu le biberon en criant beaucoup, et lui, c'est, il serre ses petits poings et je me débrouillerai tout seul. Donc on l'a appelé compétiteur, c'est la gagne, c'est le courage de rebondir, c'est je m'en sors, mais c'est un peu tout seul, c'est le combat, hein. Donc très combatif. Le septième, c'est au contraire la douceur, c'est de l'empathie, on l'a appelé le participatif, et donc c'est par le lien qu'il y arrive, et donc c'est l'art du team spirit. Et en fait, le dernier, le pauvre, il a attendu très longtemps son biberon. Et puis, finalement, il va aimer être à la rescousse des plus démunis. Donc, on va l'appeler, c'est le solidaire ou l'altruiste. Et donc, ça va être vraiment les causes des démunis qui vont le toucher et qui vont l'animer. Et on en a deux, trois. Donc, on voit bien qu'il y en a qui sont très compatibles, il y en a qui sont un peu différents. Et donc, c'est cet alliage des trois familles de talents qui est extrêmement intéressant.
Et je trouve ça fou que, en fait, on arrive à faire un lien si fort entre les comportements qu'on peut avoir quand on est bébé ou enfant avec la projection qu'on aura une fois qu'on sera adulte. Parce que, enfin, dans les exemples que tu donnais, c'était vraiment... vraiment hyper fort de voir le lien entre les deux. Et ça m'amène justement à parler du fait que parfois, on n'ait pas cette chance d'avoir participé à ce type d'atelier dès notre enfance et que du coup, une fois adulte, on a du mal à déceler et exprimer nos talents. Et j'avais trouvé un article du programme d'accompagnement Chance. Je ne sais pas si tu connais, c'est un programme de reconversion professionnelle. J'aime beaucoup. Et du coup, dans un de leurs articles, justement sur les talents, ils disaient qu'en fait, on était conditionnés dès l'enfance à voir en fait, des freins qui nous empêchaient d'identifier nos talents. Ils disaient qu'en fait, en famille, ça revenait à se vanter. À l'école, ça revenait à se reposer sur ses lauriers. Et en société, ça revenait à se comparer aux autres plutôt qu'à finalement revenir à ce qui touche à notre intime, notre intimité plutôt. Et du coup, je voulais te demander par rapport à ça, même si j'ai une petite idée de la réponse, est-ce que c'est trop tard, une fois qu'on est adulte, d'identifier nos talents ou est-ce qu'on peut, en quelque sorte, se rattraper ?
Alors, bien sûr qu'on peut se rattraper, je dirais tout au long de sa vie. Et donc, quand on travaille en coaching sur quelqu'un qui a une baisse de motivation et quand on est un peu fatigué, donc démotivé, souvent c'est qu'on n'est plus sur ses talents. Alors, on peut être sur un, pas sur trois, tout dépend. Mais en tout cas, c'est important de revenir à ce qu'on aime faire pour le plaisir de faire. Et donc, on travaille à la fois sur un week-end magique, des vacances magiques, tu as gagné au loto, qu'est-ce que tu as envie de faire ? Et aussi sur le week-end pourri, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que quand on est vraiment down, on fait un peu de ses talents parce que c'est là où il y a de l'énergie. Donc, il y a des gens qui, quand ils ont une grippe de cheval, vont bouquiner sous la couette et il y en a d'autres qui appellent leur copine. Donc, et là, de nouveau, on voit se déceler des énergies différentes et derrière ces énergies, on va pouvoir retravailler toutes les facilités qui vont avec. Et c'est comme ça que, par exemple, il y a des grandes reconversions, des gens qui étaient juristes qui deviennent paysagistes, des gens qui étaient dans la logistique et qui deviennent thérapeutes. Enfin, on voit vraiment des reconversions, puisque les gens étaient sur des compétences acquises par leur conditionnement, mais finalement se fatiguaient, et quand ils vont à un moment donné se remettre sur leur talent, et ils s'y remettent parce que la vie ne fait plus sens, ou qu'ils ont des problèmes de santé, ou qu'ils rentrent dans des grands questionnements, eh bien l'énergie va revenir et la compétence va vite s'acquérir quand on est sur ses talents, parce que la passion est là.
En fait, c'est une approche, on va dire, par le positif, c'est comment trouver de l'énergie, comment retrouver en fait nos passions, voir quelles sont nos forces, etc.
Alors oui, c'est positif, mais faut pas imaginer que c'est pas difficile, c'est extrêmement exigeant. Donc c'est super payant, parce que quand on est dans son énergie, on a quelque part la niaque et on a envie, mais il faut se challenger pour faire des changements, pour faire des reconversions, pour aller décoder ses talents, pour y croire. Et donc c'est à la fois très positif, mais en même temps exigeant.
Oui, bien sûr. Il y avait un autre exercice d'ailleurs que j'avais entendu dans un podcast d'un autre coach qui va bientôt passer, qui s'appelle Arnaud Collery. Je ne sais pas si tu le connais, et qui en fait disait qu'un exercice qu'il aimait bien faire, c'était demander aux personnes qu'est-ce qu'elles feraient s'il leur restait 6 mois à vivre. Et le fait d'avoir finalement une date butoir fait que tout ce qui peut nous limiter dans notre quotidien et qui fait qu'on remet à plus tard, qu'on procrastine, n'existe plus en fait. Je trouve ça assez puissant.
Exactement. Et à partir de ce moment-là, tu le fais tout de suite.
Oui, c'est ça. Et pour terminer, j'aime bien poser une question un petit peu sur toi, ta vision, tes projets, etc. Je sais que tu aimes bien tout ce qui est long terme. On en avait discuté, qu'on avait échangé avant le podcast. On vient de traverser une période assez particulière, unique, et qui a transformé beaucoup de personnes, je pense. Est-ce que toi, tu... Par rapport à cette période-là, tu vois un petit peu comment les gens vont fonctionner différemment. Est-ce qu'il y a des choses que tu penses vont changer et qui pourraient être liées justement au fait de déceler plus facilement nos talents ? Parce que je sais que beaucoup de personnes ont eu une démarche d'introspection pendant le confinement et peut-être les a amenées à se recentrer sur ce qu'elles aiment réellement faire.
Ouais, je pense pas que la période va changer, elle va accélérer ce qui était déjà en germe. La quête de sens, elle existait. Le droit d'être différent, avant c'était un peu les carrières toutes tracées, et aujourd'hui il y a beaucoup plus de permissions qui sont ouvertes, et ça, je crois que ça va s'accélérer. Je pense aussi qu'il va y avoir des nouveaux métiers qui vont apparaître, des nouveaux besoins. Que le monde est en train de changer, donc va falloir vraiment aimer beaucoup la nouveauté, l'inconnu et même l'incertitude, et que ça se travaille, et que les gens vont presque être amenés à faire un travail sur eux un peu au long cours, on le fait pas tout le temps, mais pour se reconnecter à leurs vrais désirs et pour vivre la vie qu'ils ont envie de vivre.
Ok, super. Et j'en profite parce qu'il reste un peu de temps, j'avais une dernière question. Comme toi, tu es très créative et tu es dans une approche sur mesure, est-ce qu'il y a des choses que tu as envie d'expérimenter au cours des prochains mois dans tes ateliers d'accompagnement, que ce soit pour Talents Lab Kids ou dans des accompagnements, je sais que tu fais aussi des sortes de mastermind?
Oui, bah déjà il y a des... Moi pendant le confinement, je me suis beaucoup occupée, intéressée à une approche qui s'appelle le voyage du héros, découvrir son héros intérieur, et donc cette approche pour adultes, j'ai vraiment envie de la traduire pour enfants. Okay. De voir comment un enfant, parce que c'est un parcours héroïque qui est d'être nous-mêmes et qu'on passe par différents stades, mais on l'initie déjà petit, et donc ça me plairait beaucoup de la transformer pour que ça parle à un enfant de 10 ans qui soit le roi ou la reine de son royaume, qui est sa personnalité. Après là je suis en train de préparer un séminaire que je vais faire en résidentiel à la fin du mois de juin sur la mission de vie, Donc, ça se rapproche beaucoup de la quête de sens. Et je pense que vraiment, la, Mo Bourquette qui a écrit dessus dit que la mission de vie, on ne la découvre pas, on ne la choisit pas. C'est elle qui vous choisit. On est appelé à sa mission. Donc, ça se rapproche un peu du voyage du héros où on a un appel. Et vraiment, le, j'ai envie de développer que les gens écoutent les voix de, voilà, de la vie qui passe, de ce qu'ils vivent pour être de plus en plus eux. Comme ça, quoi qu'il vous arrive, de chance ou de malchance, on est toujours gagnant puisqu'on en profite pour grandir. Super. Et puis enfin, j'avais fait un séminaire l'année dernière sur la chance. Et je pense que c'est pareil. Si on se dit que finalement, tout ce qui nous arrive, même les moments de malchance, peuvent nous éclairer et devenir une chance dans un second temps, et ben on voit la vie avec plus de sérénité.
Tout à fait. C'était d'ailleurs un des messages du premier épisode qu'on avait fait, qui était un petit peu sur ces sujets. Ben écoute, merci beaucoup pour cet échange, Dominique.
Merci beaucoup, Lydia.
J'espère que cet épisode vous a plu. Vous trouverez en description de l'épisode des ressources pour continuer à explorer le sujet, ainsi que le contact de l'invité. Pensez à aller sur notre page Instagram, Le Cocon Podcast, sur laquelle vous pouvez nous contacter pour poser des questions, suggérer des thèmes ou des invités. Enfin, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous ou à le partager avec les personnes que ça pourrait intéresser. Vous nous aiderez ainsi à rendre ces échanges encore plus visibles.